Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans Le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. Depuis environ un an, force est de constater que s'installe durablement une véritable défiance entre une part grandissante du public et tout ce qui peut apparaître comme devant incarner des figures ou des symboles d'autorité. Parmi ces derniers, un pilier de notre système républicain en fait tout particulièrement les frais. Et non, je ne vais pas parler des journalistes, même si j'aurais pu, très honnêtement. En l'occurrence, c'est à la police que je faisais référence. Il suffit de prendre le seul exemple de la crise à rallonge des gilets jaunes pour s'apercevoir qu'une fracture douloureuse s'est créée entre les forces de l'ordre et celles et ceux qu'elles sont censées protéger. Une situation qui n'est certes pas améliorée par la gestion désastreuse de certains dossiers emblématiques de ces derniers mois. Par exemple, la mort dramatique de Steve Maya Canisso à Nantes en juin dernier, après une intervention policière extrêmement critiquée. On en revient à une vieille question bien connue des amateurs de pop culture, qui surveille les surveillants ? Pour le coup, la réponse tient en un acronyme, l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale. La police des polices, comme on l'appelle souvent, les bœufs carottes, comme on disait par le passé. Mais derrière tous ces noms, officiels et officieux, se cachent des services perçus soit comme une chambre de blanchiment des exactions policières, soit comme une armée de chasseurs de flics déconnectés du terrain. Au-delà de ces énormes clichés, la complexité du fonctionnement de l'IGPN mérite qu'on s'y attarde en détail. Ça tombe bien, c'est ce qu'on s'apprête à faire avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour entrer dans le détail du fonctionnement, des sinuosités et des enjeux liés à cet aspect très spécifique des forces de l'ordre, je suis allé en discuter avec Mathieu Zagrodzki. Il est chercheur associé en sciences politiques au CESDIP, le centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Et je lui ai demandé, pour démarrer tout simplement, quand on parle d'IGPN, on parle de quoi ?
Eh ben, on parle de l'Inspection Générale de la Police Nationale, qui, comme son nom l'indique, est le corps d'inspection de la police, qui a en gros deux grosses responsabilités. Premièrement, il y a une responsabilité d'enquête sur des affaires disciplinaires, c'est-à-dire en gros quand des policiers commettent des infractions, ou soit à la loi, soit aux règles administratives. La deuxième grande mission, c'est un peu une mission d'audit et d'assistance, qui est beaucoup moins connue. C'est-à-dire que l'IGPN peut par exemple aller inspecter un service et puis vérifier si l'accueil se passe bien dans un commissariat, peut aller à la demande dans un autre service qui, par exemple, connaît des problèmes de management en interne, venir apporter une assistance, faire une espèce d'analyse et d'audit, un peu comme le ferait un cabinet de conseil externe. Et donc voilà, en gros, ce sont les deux grosses responsabilités aujourd'hui de l'IG.
Qui sont ces membres ? C'est qui compose l'IGPN ?
Ce sont majoritairement des policiers, notamment sur la partie enquête. Les enquêtes, elles sont menées par des policiers. Alors, il y a quelques civils à l'IGPN, mais justement sur cette partie audit et conseil, où l'IGPN a recruté en externe des gens qui ont justement plutôt des profils de consultants, d'auditeurs, des gens venus du privé. Mais en gros, on parle majoritairement de policiers, tout simplement parce qu'il s'agit d'enquête. C'est-à-dire que quand vous investiguez, par exemple, une infraction potentielle commise par un policier, il y a des actes d'enquête à faire. C'est-à-dire qu'il y a des auditions, parfois des gardes à vue, parfois des perquisitions. Et ça peut uniquement être effectué par un membre des services de police.
Comment est-ce qu'elle fonctionne, dans le sens où comment se déroule, si on prend un cas lambda d'une enquête de l'IGPN, c'est quoi le processus qui est à l'œuvre. Qu'est-ce qu'il a saisi? Comment est-ce qu'il se met en marche? C'est quoi ses pouvoirs?
Bon, il y a plusieurs modes de saisie, et c'est un peu comme une enquête classique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une saisie qui résulte d'une plainte, c'est-à-dire que vous, citoyen, vous avez été victime de ce que vous estimez une violence illégitime ou tout acte, un contrôle par exemple, qui n'aurait pas été fait selon les règles de la loi. Vous pouvez déposer plainte auprès de l'IGPN, ce qui va déclencher une enquête. Après, les enquêtes de l'IGPN peuvent être faites à la demande du procureur de la République, encore une fois comme n'importe quelle enquête, c'est-à-dire le procureur va saisir un service de police d'une enquête préliminaire, et ça peut être également initié en interne, c'est-à-dire qu'en gros la direction générale de la police ou le corps préfectoral peuvent demander qu'une enquête de l'IGPN soit effectuée s'il y a soupçon, encore une fois, d'une infraction ou d'une faute commise par des membres des forces de l'ordre.
Et ensuite, comment elles se déroulent, ces enquêtes? C'est exactement comme une enquête classique d'un service de police, de police judiciaire classique?
Ça va dépendre du cadre juridique, c'est-à-dire que si on est sur une enquête qui est purement disciplinaire ou sur un audit, il n'y aura pas les mêmes pouvoirs d'enquête que sur une enquête judiciaire classique. Donc on va recueillir les propos, les témoignages des personnes concernées, mais on ne va pas forcément être en mesure de faire des actes d'enquête comme des auditions de personnes externes, comme des convocations. C'est d'ailleurs un peu toute la controverse autour de l'affaire Steve et du rapport sur Steve. C'est qu'en fait, on était sur une enquête qui était purement interne et qui ne permettait pas de faire tous les actes d'enquête classiques. Si en revanche, vous avez une saisine par l'autorité judiciaire, donc un procureur ou un juge d'instruction, là, on est dans un tout autre cadre et on est effectivement dans le même cadre juridique qu'une enquête judiciaire classique, donc avec la possibilité de perquisitionner, de placer en garde à vue, de faire tout le nécessaire pour que lumière soit faite sur des accusations d'infraction à l'égard de policiers.
Vous avez mentionné l'affaire Steve, donc la mort de ce jeune homme à Nantes pendant la fête de la musique en juin dernier. On a beaucoup, du coup, parlé de l'IGPN à ce moment-là, parce qu'il y a eu, vous l'avez dit, ce fameux rapport qui a été présenté par le Premier ministre comme étant, on va dire, une manière de dédouaner les policiers de tout acte, on va dire, délictueux, ou en tout cas de toute mauvaise gestion du maintien de l'ordre pendant cette soirée où Steve est décédé. Cependant, il y a eu une grosse incompréhension autour de ce que c'était cette enquête, de ce que c'était ce rapport, parce qu'en fait, il ne disait pas ça.
Oui, en fait, l'une des incompréhensions et l'un des malentendus, c'est que, comme on vient de le dire, il y a deux types d'enquêtes schématiquement menées par l'IGPN. Il y a l'enquête administrative et il y a l'enquête judiciaire. Et ce sont deux choses séparées, qui peuvent s'effectuer en parallèle ou consécutivement, l'une n'exclut pas l'autre, mais qui ont des effets différents. C'est-à-dire que l'enquête administrative, ça va être une enquête interne pour déterminer si des règles de fonctionnement de la police ont été violées. C'est-à-dire, en gros, ça peut être des choses très, entre guillemets, basiques ou vraiment très internes au commissariat, c'est, je sais pas moi, la manière de stocker l'arme à feu dans l'armurerie du commissariat. Il n'y a pas d'infraction pénale, ça ne concerne pas une violation de la loi, c'est juste une règle de sécurité interne. Et donc là, on est sur des sanctions potentielles qui sont administratives, donc qui tiennent en fait à la carrière du policier. Ça va être un blâme, une suspension, une retenue sur salaire. Quand en revanche, vous avez une infraction pénale, c'est-à-dire, mettons, un policier frappe ou tue quelqu'un, où il y a certes faute administrative, mais il y a aussi et surtout une faute pénale, là, on passe en fait dans le camp de l'enquête judiciaire. Et comme je l'indiquais à l'instant, c'est une enquête classique où on a tous les actes de procédure destinés en fait à amener potentiellement une personne devant un tribunal. Et dans l'affaire Steve, jusqu'ici, c'est ça qui n'a pas été clair, finalement. C'est quelle est la nature de l'enquête et quels sont les pouvoirs d'enquête. Et une autre incompréhension, ça a été effectivement les annonces par rapport au contenu. C'est vrai que le contenu n'est pas, j'allais dire, pas satisfaisant. Le terme serait plutôt est incomplet, parce que c'est une enquête qui est encore incomplète. Bon, forcément, il y a un volet technique et professionnel, et puis un volet politique. C'est-à-dire que l'IGPN fait une enquête qui est technique et professionnelle, qui peut être incomplète, imparfaite, qui peut être critiquable. Ça, je dis pas forcément le contraire. Je dis absolument pas que le rapport en tant que tel était inattaquable. Mais sans me prononcer sur le fond des choses, c'est ça leur travail. Et à côté de ça, forcément, il y a une récupération politique. C'est-à-dire qu'il y a un gouvernement qui est attaqué, qui est critiqué justement par rapport à la gestion du maintien de l'ordre depuis un certain temps, notamment depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Et même si l'affaire Steve n'a rien à voir avec le mouvement des Gilets jaunes, puisque c'est la fête de la musique, on est dans un contexte général où il y a des accusations de brutalité policière et des accusations généralement envers le gouvernement de vouloir faire taire les mouvements sociaux et un peu de mater des catégories de population qui ne lui plaisent pas. Et donc forcément, on est dans une opération de communication politique, et là encore, je ne le dis pas de façon péjorative, je dis, c'est un fait, c'est que on organise une conférence de presse à la va-vite, sans prendre beaucoup de recul pour dire, bon, bah, finalement, regardez, le rapport dit qu'il n'y a rien. Le rapport ne dit pas qu'il n'y a rien, le rapport dit qu'à ce stade, il n'est pas possible d'effectuer un lien, ce qui n'est pas la même chose. D'où les incompréhensions, les polémiques, les controverses. Auquel vient s'ajouter le statut de l'IGPN, parce que ce qui s'est inséré dans le débat, c'est forcément le fait que des policiers enquêtent sur d'autres policiers, et là, on rentre sur une thématique qui est autre, qui est le statut même de l'IGPN, l'indépendance de l'IGPN, et le comparativement au modèle qui a été adopté par d'autres pays.
Oui, justement, on a souvent cette tension, on va dire, entre à la fois l'IGPN, qui notamment ces derniers mois est accusé d'être en gros un service de blanchiment politique de potentielles infractions des policiers ou exactions des policiers, qui servirait donc à masquer un certain nombre de dérives ou de bavures, et de l'autre côté, quelque part, ce que la fiction, qui est donc ce que le grand public connaît le plus généralement, nous renvoie depuis au moins 20 ans, si ce n'est 30 ans, c'est-à-dire l'image des boeufs-carottes, de la police des polices, des types qui sont perçus très négativement par les policiers, qui sont là pour mettre en prison d'autres flics, en gros, si je schématise. On a cette tension-là. Comment est-ce qu'elle est perçue, puisqu'on est sur ce terrain-là, l'IGPN au sein de la police?
Ouais. Vous avez parfaitement résumé les choses, hein, sur ce contraste entre, d'un côté, bon, bah, c'est des policiers qui investiguent sur d'autres policiers, donc forcément ils font preuve de mansuétude, et puis l'image qu'on retrouve par exemple dans Les Ripoux, voilà, qui est un classique du ciné français, où voilà, on a des bœufs-carottes qui sont impitoyables et cherchent la petite bête à tout prix. Le policier de terrain moyen, si tant est qu'il existe, mais pour résumer les choses, et c'est un euphémisme, n'aime pas l'IGPN. L'IGPN jouit d'une image désastreuse dans les rangs des policiers de terrain, parce que considéré comme un service justement coupé du terrain et qui ne comprend pas les impératifs de policiers confrontés à l'urgence, qui doivent prendre des décisions de manière quasi immédiate. Et quand je dis décision, bah, ça peut être ouvrir le feu, plaquer quelqu'un au sol, et se retrouver en fait dans des situations de danger physique. Et le policier de l'IGPN, il est souvent vu comme un faux policier, un faux collègue. Quelqu'un en fait qui est là pour charger des gens qui pourtant font partie de la même maison que lui. Donc la représentation à l'intérieur de la police n'a absolument rien à voir avec la représentation qu'on en a à l'extérieur, encore une fois, de policiers qui sont de mèche avec leurs confrères et font tout pour couvrir, pour cacher leurs possibles exactions. Donc voilà, c'est toujours intéressant un peu d'entrer dans le fond des choses et de discuter de ça avec les flics de terrain, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'il n'y a pas du tout la même perception. Et puis souvent, l'image qu'il y a, c'est qu'au fond, les policiers de l'IGPN... C'est parfois vrai. Alors, soit il y a des gens qui ont été placardisés, c'est-à-dire en gros, l'IGPN, c'est là où vous finissez parce que on ne sait pas où vous placez. Ou alors, ce sont des policiers qui sont entrés là-dedans un peu par sacerdoce parce qu'ils ont vu des choses quand ils étaient en service, de voie publique ou dans des services d'investigation, ont observé des choses qui leur ont profondément déplu, ont déplu à leur conception du métier, et se sont dit, bon, bah, moi, en fait, je veux lutter contre ces personnes qui ne font pas honneur à ce qui est censé être une institution de la République.
Ce qui ressort de tout ça, et notamment de toute cette conversation qu'on est en train d'avoir, c'est finalement la grande complexité des services de police et le fait que le grand public, je pense, et une partie de la presse, une partie des relais entre ces services et le grand public, c'est aussi le rôle de la presse, ne comprennent pas la complexité et ne maîtrisent pas cette complexité. C'est-à-dire qu'on on a du mal à apercevoir la police comme étant autre chose que la police, c'est-à-dire, basiquement, des gens qui sont dans nos rues et dont le système de fonctionnement nous paraît familier. Et en fait, on a du mal à embrasser, justement, cette grande complexité.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Y a plusieurs, en fait, couches de complexité qui se superposent. Il y a la complexité organisationnelle, qui est que, déjà, Paris Petite Couronne, c'est une galaxie, entre guillemets, séparée du reste de la France. La police à Paris et Petite Couronne est exercée par la préfecture de police. Donc, ce sont des policiers nationaux, comme tous les autres. Ils font partie du même corps, ce sont les mêmes grades, le même recrutement. Simplement, ils sont dans une hiérarchie qui est un peu parallèle, ou plutôt séparée. C'est-à-dire que, dans tout le reste de la France, vous avez le DGPN qui a autorité sur tout le monde et les commissariats sont sous la responsabilité d'un directeur central de la sécurité publique, hein, qui est le service qui chapeaute les circonscriptions de sécurité publique et donc ce qu'on appelle communément les commissariats. À Paris, le DGPN et le directeur central de la sécurité publique n'ont aucun pouvoir, en fait. C'est-à-dire que tout est sous le contrôle du préfet de police. Ce qui fait que le préfet de police a son propre service de renseignement. Il y a les directions du renseignement de la préfecture de police. Il a sa propre PJ. Donc, vous savez, les grandes brigades dites du 30... Voilà, le 36 qui a des Orfèvres, la CRIM, la BRI, tout ça, ce sont des services du préfet de police. Même s'il y a des BRI ailleurs en province, mais elles sont complètement séparées, en fait, de la BRI parisienne. Et ça explique un certain nombre d'affaires auxquelles nous avons assisté ces derniers temps. J'en cite deux, c'est l'affaire Benalla et c'est la question de la gestion du maintien de l'ordre autour des Gilets jaunes. On a assisté à de très très fortes tensions entre la préfecture de police d'une part, qui a historiquement, enfin qui est qualifiée d'État dans l'État, qui a un fonctionnement un peu fermé, et le reste du ministère de l'Intérieur. Ça, c'est une première chose. Et c'est mal appréhendé par le grand public et puis par une partie de la presse, en tout cas les journalistes non spécialisés. Les journalistes spécialisés, évidemment, savent cela, ils sont parfaitement au courant. En dehors, ça devient un peu plus compliqué. Ensuite, il y a une complexité qui est d'ordre, qui tient en fait à la culture, ou plutôt aux cultures policières. Alors évidemment, il y a une culture policière commune, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment d'appartenance et de solidarité entre collègues. Mais si on prend les grandes familles au sein de la police. Alors, vous avez la famille ultra-majoritaire, c'est la famille dite de la sécurité publique, c'est-à-dire les policiers du quotidien qui travaillent en commissariat, qui patrouillent. Vous avez la PJ, vous avez les CRS, donc tout ce qui touche au maintien de l'ordre, et puis vous avez les gens du renseignement. Ce sont des modes de fonctionnement qui n'ont absolument rien à voir. Les CRS, c'est quasi-militaire. La sécurité publique, c'est très hiérarchisé et très codifié. En PJ et dans le renseignement, on est sur des modes de fonctionnement qui sont beaucoup plus horizontaux. C'est-à-dire où... alors, bien sûr, il y a un chef, il y a des gens qui dirigent l'enquête, mais on n'est pas dans des rapports aussi pyramidaux qu'on va avoir dans une formation de CRS, par exemple. Où là, il y a un truc, il y a quelque chose de très... De très cadré. Les proportions hiérarchiques ne sont pas du tout les mêmes selon ces corps. Ce que j'entends par là, c'est que dans le renseignement, vous allez avoir une plus forte représentation des corps intermédiaires et supérieurs. Là où en sécurité publique, vous avez une écrasante majorité en fait, de gens du corps de gardien de la paix. Donc tout ça, on est dans des logiques organisationnelles, des logiques culturelles, des logiques de pouvoir qui sont très très différentes. Je vais vous donner un exemple concret qui remonte à une vingtaine d'années. Pour faire simple, à Paris, justement, au sein de la préfecture de police, il y avait une séparation très stricte entre la police de sécurité publique et les unités d'investigation de quartier. C'est-à-dire que vous étiez dans un arrondissement parisien, vous aviez d'un côté un commissariat de sécurité publique, où il n'y avait que les gens qui faisaient des patrouilles, de l'autre côté, les commissariats de quartier, où c'était les gens auprès desquels vous portiez plainte. Donc quelque chose de complètement illisible pour le parisien moyen, c'est-à-dire qu'il allait dans un commissariat de sécurité publique, il voulait porter plainte, on lui disait « Non, nous ici, on fait que des patrouilles, il faut aller au commissariat de quartier ». En 99, on fusionne ça. C'est-à-dire on regroupe tout ça au sein de commissariats centraux d'arrondissement, c'est-à-dire que chaque arrondissement a une hiérarchie policière, un point d'accueil identifié. Pour faire mettre la tenue à un certain nombre de policiers des anciens commissariats de quartier qui faisaient que de l'investigation civile, ça a été la croix et la bannière. C'était une humiliation pour eux, alors que ce sont des policiers, ce sont des gens qui ont... ils appartiennent à la même maison, mais leur dire, par exemple, quand vous faites de l'accueil au commissariat, que vous n'êtes pas sur le terrain pour faire une filature, mais à l'accueil, on veut que vous soyez en tenue parce que c'est l'image de la police, parce que voilà, il y a la solennité de l'uniforme, il y a eu des résistances extrêmement fortes.
Il y a eu aussi l'idée, pour terminer, très récemment qui a été avancée au moment justement de l'affaire Steve, d'une ouverture de l'IGPN, et on en revient à notre sujet principal, d'une ouverture de l'IGPN à des non-policiers. En gros, si je résume, à une nouvelle façon de faire du contrôle de l'activité de la police qui soit plus paritaire et qui soit sortie du giron strict de la police. Je sais que c'est perçu avec énormément de réticence au sein de l'IGPN et que Brigitte Julien, qui est la patronne de l'IGPN, a notamment dit que c'était pas quelque chose qui la satisfaisait. Est-ce que c'est une piste justement pour aller, non pas nécessairement vers de la transparence à tout prix, mais pour aller vers plus de compréhension de son action?
Oui, la transparence totale, elle n'arrivera pas pour une raison extrêmement simple. C'est qu'en fait, on est soumis au secret de l'enquête, exactement comme dans n'importe quelle autre procédure judiciaire. Mais transparence dans la communication des résultats, alors ça a progressé quand même. Hein. Là encore, hein, la personne, la directrice qui a précédé Madame Julien, qui était Madame Monéger-Guillaume-Marche, a également fait beaucoup d'efforts pour communiquer un peu sur les chiffres, sur le nombre de personnes blessées ou tuées par la police. Donc là encore, il serait malhonnête de dire que rien n'a été fait. Néanmoins, il y a toujours des zones d'ombre ou du moins de contestation, et vous avez raison de dire qu'il y a quand même cette question d'image qui reste problématique. Bon, c'est sûr que du côté de la hiérarchie policière du ministère de l'Intérieur, on freine des deux pieds, c'est-à-dire que c'est toujours compliqué de demander à une institution de se délester d'une partie de ses pouvoirs, pour faire simple, hein, pour résumer un petit peu les choses. Bon, il y a d'autres pays qui ont choisi le modèle de l'autorité administrative indépendante. Les Britanniques, c'est comme ça, c'est l'équivalent de nos autorités administratives indépendantes, c'est un organisme qui est complètement séparé de la police, qui conduit son propre recrutement, qui a son propre fonctionnement qui est extérieur. Est-ce que ça changerait grand-chose en termes d'efficacité des enquêtes? J'en sais rien. Et puis, l'Angleterre n'est pas dénuée de problèmes. Enfin, la Grande-Bretagne n'est pas dénuée de problèmes. Je ne suis pas en train de dire que tout fonctionne parfaitement de ce point de vue-là en Grande-Bretagne. Mais au moins, on couperait l'herbe sous le pied de ces critiques-là. On pourrait dire, bon, ok, peut-être que tout ce qu'on fait n'est pas parfait, peut-être qu'il y a des points à améliorer, mais vous ne pouvez plus nous reprocher notre absence d'indépendance, qui est quand même un reproche omniprésent dans les discours autour de l'IGPN, et notamment autour des Gilets jaunes et de l'affaire Steve, ces derniers mois.
Une autre entité de contrôle, par ailleurs, s'est retrouvée mêlée à l'affaire Steve, c'est l'IGA, l'Inspection Générale de l'Administration. Mais là, ce serait trop de couches de complexité pour un seul épisode. Elle en mériterait un, l'IGA, à elle toute seule. Et d'ailleurs, tiens, c'est une idée à creuser. Merci à Mathieu Zagrodzki pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Solène Moulin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.